Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes bien sur Globule Radio 90.5 FM à Chamonix.
Aujourd'hui, comme vous avez dû l'entendre, ce ne sont pas vos animateurs habituels qui parlent, c'est nous, des élèves de 4e du Collège Jeanne d'Arc à Chamonix. Nous faisons ce projet qui est d'animer la radio grâce à nos enseignants, notre prof principal, mais aussi de français, Madame Mère, également grâce à la documentaliste de l'école, Madame Martin, et au directeur de l'établissement, Monsieur Morand, qu'on remercie. Si vous ne pouvez pas rester avec nous pendant la durée de notre émission, n'hésitez pas à réécouter cette émission sur le site globule.chamonix.radio. Petite présentation de l'équipe. Alors nous sommes quatre. Donc pour commencer, nous avons à la technique Chloé. Un petit coucou.
Hello.
À ma droite, Tabata, la responsable du son.
Ciao.
Nous avons aussi Léane, la responsable du conducteur.
Coucou.
Et moi, l'animatrice. Aujourd'hui, nous allons parler des confrontations de valeurs dans la société. Chacune de nous parlera d'un sujet différent autour de ce thème. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous laisse avec la chronique personnelle de Chloé qui parlera d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.
Voulez-vous savoir comment remporter 1,7 milliard d'euros ? Une célèbre marque l'a fait avec du cuir. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette célèbre marque de haute couture nommée Prada. Que ce soit dans les magazines, à la télé, un ami ou peut-être avait tout simplement des vêtements, sacs, chaussures de leur marque. Mais connaissez-vous vraiment son histoire ? Vous ne la connaissez peut-être pas, alors je suis là pour vous l'expliquer et que cette marque n'ait plus de secret pour vous.
Pour commencer, c'est quoi Prada ?
Prada est une marque de haute couture née dans les années 1913 à Milan et créée par deux frères, Mario Prada et Martino Prada. Elle est réputée pour leur cuir de haute couture.
Ah ouais, elle n'est pas toute récente.
C'est sûr.
Et d'ailleurs, est-ce que Prada a été connue dès le début ?
Bonne question. Alors non. Comme dit précédemment, la marque est née dans les années 1913. Mais elle n'a été connue qu'à partir de 1970, quand Miuccia reprend l'entreprise de son grand-père et qu'elle décide de lancer le nylon. Tissu créé à partir d'objets recyclés.
L'éco-responsabilité donc. Et dis-moi, quelles sont les valeurs de la marque ?
Miuccia Prada dit, je cite, « L'innovation et la responsabilité sociale font partie des valeurs fondatrices du groupe Prada ». Miuccia dit ça le 22 mai 2019, après avoir annoncé vouloir arrêter la fourrure. Cette décision fut saluée par les défenseurs du bien-être animal.
Très bonne initiative. Et enfin, pour terminer, quel a été l'article le plus vendu de la maison Prada ?
Sans surprise, ce qui a été le plus vendu par la marque est le cuir. En 2018, il avait déjà rapporté 1,7 milliard d'euros, avec en dessous les vêtements qui ont aussi rapporté 666 millions d'euros.
Waouh ! Merci pour toutes ces infos.
Merci à vous. Évidemment, si vous voulez retrouver plus d'informations sur l'histoire de Prada, n'hésitez pas à visiter le Grand Musée Prada.
On vient d'écouter Chloé sur Globule Radio 90.5 FM. Tout de suite, sans transition, je passe la parole à Tabata, qui a décidé de nous en apprendre plus sur les chiens d'avalanche.
Selon Wikipédia, il y a environ 300 chiens d'avalanche en France aujourd'hui.
Mais quel est le rôle du chien d'avalanche ?
Son rôle est de localiser les victimes d'une avalanche coincées sous la neige grâce à son flair. Il est aussi capable, grâce à son odorat, de quadriller une zone 6 fois plus vite qu'un humain. Il est également capable de trouver une victime enfouie à plus de 4 mètres de profondeur. Grâce à sa force, il peut la dégager et la hisser en toute sécurité.
Quelles caractéristiques doit avoir un chien d'avalanche ?
Il doit être un mâle et pas une femelle, car s'il y a une femelle avec un mâle sur le terrain, le mâle va commencer à la renifler et donc perdre concentration. Il doit avoir un excellent flair, de l'endurance, de l'agilité, de la sociabilité, de l'obéissance et surtout beaucoup de capacité de concentration.
Quelles sont les races de chiens les plus appropriées pour le sauvetage en montagne ?
Ce sont les bergers allemands, les bergers belges, les malinois. Mon préféré est le berger allemand car ils sont beaux, intelligents et pleins d'énergie. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire d'un chien nommé Jethro. Jethro, un berger belge malinois, a sauvé la vie d'un garçon de 12 ans emporté par une avalanche à Plagne. Enseveli plus d'une heure sous la neige, il n'était pas équipé de DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Ce chien du PGHM de Bourg-Saint-Maurice a sauvé la première victime de sa carrière. Ce garçon lui donne une fière chandelle.
Et combien de temps un chien d'avalanche doit s'entraîner ?
Un chien doit s'entraîner au moins 2 à 5 heures par jour pour qu'il soit prêt pour le jour J. Pour cela, il fait de petits exercices. Le premier exercice consiste à mettre le chien dans le tempo du travail. Les maîtres utilisent donc un de ses jouets qu'ils vont cacher sous la neige et le chien devrait le déterrer pour pouvoir jouer avec. Ensuite, une mise en situation est faite pour que le chien apprenne à mémoriser les odeurs du corps humain qui transpercent le manteau neigeux, pour sentir et reconnaître la victime en cas de vraie situation.
Quelles sont les différentes étapes du sauvetage pour le chien ?
Le chien commence à chercher la victime, il trouve la victime et la hisse en dehors de la neige. Pour moi, les chiens d'avalanche ont un rôle très important dans le sauvetage en montagne, car ils nous permettent de sauver plus de monde et surtout plus rapidement.
Merci Tabata pour toutes ces informations partagées sur les chiens d'avalanche. Et tout de suite, on écoute Freedom de Pharrell Williams.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Care what they know. Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun.
On vient d'écouter sur Globule 90.5 FM Freedom de Pharrell Williams. Et tout de suite, on retrouve Léane, notre journaliste en herbe, qui s'est intéressée à l'association de Chamonix, Écotrivélo.
Toute l'année, l'association Écotrivélo sillonne les rues de Chamonix à vélo pour collecter les déchets organiques de ses partenaires, les bars et les restaurants de la vallée. Grâce à son activité, elle contribue à protéger et préserver l'environnement et à valoriser les déchets en compost. J'ai accueilli Christelle Moncourt, la présidente de cette association, et j'ai pu en apprendre plus sur Écotrivélo. La première question que je lui ai posée est: par qui a été lancé ce projet et qu'est-ce qui vous a motivé à le rejoindre et à le présider?
Ce projet, il a été lancé en fait par Jonathan. Jonathan Chabrol, et lui, ce qui l'a motivé, c'est pouvoir jardiner. Donc pouvoir avoir de la bonne terre et donc faire beaucoup de compost. Et pour faire beaucoup de compost, avec ses propres déchets, ça ne suffisait pas. Donc il est allé voir des restaurants et il a commencé comme ça à faire une collecte. Et ensuite, pourquoi moi j'ai été motivée pour le rejoindre, c'est parce que je l'ai entendu présenter son idée à une journée de présentation des initiatives citoyennes organisée par l'association Butch à Butch. Et quand j'ai entendu ce projet, j'étais avec mon garçon qui avait 12 ans à l'époque, qui m'a dit « Maman, ce projet est vraiment génial, il faut qu'on l'aide ». Et c'est comme ça que j'ai été voir Jonathan et que je l'ai aidé. Je trouvais que l'idée était vraiment très intelligente. Et en plus, moi aussi, j'aime bien faire du jardinage et j'ai envie d'avoir beaucoup de compost. Donc nos idées se sont rejointes.
Depuis combien de temps vous faites ce ramassage?
Alors Jonathan a commencé en 2018. Et je l'ai rejoint en 2020. Et donc, ça continue depuis.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une surcharge de travail ?
Le travail n'arrête pas d'augmenter parce qu'on a de plus en plus de professionnels, de restaurateurs, de boulangeries qui nous demandent de venir chercher leurs déchets. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de biodéchets qui sont bien recyclés, en fait. Et donc, on a toujours essayé de prévoir cette charge de travail et de prévoir les équipes en fonction de ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de mauvaises surprises. On a toujours eu la bonne équipe pour le travail qu'on avait prévu.
Combien avez-vous de partenaires ?
Alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais je dirais entre 30 et 40 professionnels.
Comment avez-vous fait pour les convaincre ?
Au début, ça a été difficile parce qu'on leur demandait de payer pour ce service, de manière à pouvoir payer notre propre matériel et tous nos équipements pour composter. Et donc, ça voulait dire que pour eux, ce qu'ils faisaient hier gratuitement devenait payant. Et puis, ce n'est pas évident quand on tient une affaire d'avoir des coûts supplémentaires. Et ceux qui ont été les premiers convaincus sont des professionnels qui ont vraiment l'écologie à cœur. Donc on sentait que c'était vraiment ça leur moteur. Et aujourd'hui, de plus en plus de professionnels viennent vers nous parce que je pense que d'abord, l'écologie touche plus de gens. Et puis aussi, finalement, c'est une solution pour eux qui est assez pratique parce que ça leur évite de transporter des poubelles très lourdes et qui ne sentent pas très bon. Les poubelles avec les déchets organiques, c'est celles qui sentent le plus mauvais. De les transporter sur des longues distances pour aller les mettre aux ordures ménagères. Donc nous, on leur évite ce travail-là. Et finalement, il y en a qui sont contents de plus avoir cette charge de travail.
Du coup, combien faites-vous payer le kilo de matière organique ?
Alors, chaque kilo qu'on emporte, on le fait payer 50 centimes d'euros. Et puis après, au-delà d'un certain nombre de kilos, ça devient moins cher.
Comment avez-vous appris à faire du compost ?
Jonathan, donc le fondateur de cette association, lui, il a appris avec son papa. Quand il était petit, son papa était aussi jardinier amateur et lui a beaucoup enseigné là-dessus. Et puis, moi, j'ai appris aussi en jardinant, toute seule. Mais après, on s'est formé. Donc, il y a plusieurs diplômes en compostage. Tout le monde n'est pas au courant, mais il y a un premier diplôme qui s'appelle guide composteur. Donc, moi, je suis guide composteur et d'autres bénévoles dans l'association le sont aussi. Donc ça, c'est une semaine de formation et c'est un petit diplôme qui est très facile à passer. Et puis, il y a un diplôme un petit peu plus difficile à passer et un petit peu plus long à passer qui s'appelle maître composteur. Et Jonathan, il est maître composteur depuis un an maintenant.
Où vont ces déchets organiques après avoir été réceptionnés ?
On les composte sur plusieurs sites dans la vallée. Des sites qui sont prêtés par des propriétaires, donc soit un morceau de leur jardin, ou soit par exemple la caserne des pompiers nous laisse installer des bacs de compostage juste à côté de la caserne, sur le terrain qu'ils ont. Et sinon, il y a aussi la SNCF qui nous laisse installer des bacs sur plusieurs sites qu'on a repérés avec eux. Une dizaine de sites sur Chamonix, et puis d'autres sur Argentières, Les Ouches et Servoz.
Faites-vous ce ramassage tous les jours ?
Aujourd'hui, on le fait 3 fois par semaine. On ne le fait pas encore tous les jours, mais ça se pourrait qu'on le fasse tous les jours, en pleine saison, par exemple l'été prochain. On y réfléchit.
Et comment ça se passe l'hiver ?
C'est pas le plus facile, mais c'est possible. Donc on a des pneus avec des clous pour éviter de glisser sur la neige ou sur le verglas. Et puis surtout les pédaleurs, hein, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la collecte des biodéchets, ils sont très bien habillés. Il y a des magasins de sport qui ont accepté de donner des vêtements pour équiper les pédaleurs.
Avec qui effectuez-vous ce ramassage ?
On a une salariée qui est tout le temps sur le ramassage, qui s'appelle Lise. On a avec elle pour l'aider un jeune homme qui est volontaire en service civique. Donc lui, il fait ça presque bénévolement, parce que le volontariat en service civique, c'est une période de la vie où on peut donner du temps de travail en étant très peu rémunéré. Et puis sinon, on a beaucoup de bénévoles. Donc pratiquement chaque tournée de collecte, il y a au moins la salariée et le volontaire en service civique, plus un bénévole.
Est-ce qu'il y a un âge nécessaire pour vous rejoindre ?
Notre plus jeune pédaleur a 12 ans et notre pédaleuse senior a bientôt 70 ans. Donc voilà, c'est ouvert à tous.
Et comment financez-vous le matériel nécessaire ?
Ça, c'est une bonne question parce qu'on ne s'en rendait pas compte au début, mais il y a beaucoup de matériel à acheter pour cette activité. Et donc, on en finance une partie parce qu'on fait payer les restaurateurs lorsqu'ils sont collectés, mais on finance aussi une très grande partie grâce aux dons. Donc des dons de particuliers qui nous donnent des sous. On a des entreprises et des fondations d'entreprises qui nous aident.
Comment les chamonnières pourraient plus vous aider ? Est-ce que ce serait plutôt en vous aidant en bénévolat ou plutôt en faisant des dons ?
Eh bien, je dirais que ça dépend en fait de chacun. C'est un projet qui a besoin d'un peu tout ça, justement. Et par exemple, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est au collège ou au lycée, il sera plus facile de lui demander de nous aider en bénévolat, et il y en a besoin. Et puis, par exemple, quelqu'un qui a du terrain, mais qui n'est pas sportif, il pourra plus nous aider en nous prêtant un morceau de son jardin pour composter. Et puis, quelqu'un qui a ni l'un ni l'autre, mais beaucoup de sous, il pourrait nous donner des sous. Donc en fait, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a aussi des gens qui viennent dans l'association et qui donnent des idées, des compétences en comptabilité, en communication. Plein de façons d'aider le projet qui sont possibles.
Merci beaucoup pour cette interview.
Alors j'en profite pour vous remercier aussi et puis pour saluer un pédaleur qui a été collégien à Jeanne d'Arc pendant plusieurs années et qui s'appelle Roman.
Je tiens à remercier Christelle Moncouranquin qui a accepté de répondre à mon interview. Un moment de qualité partagé ensemble.
Merci Liane pour ce très beau projet partagé. Maintenant, pause musique avec le titre « Oui ou non » d'Angèle.
Ma journée est passée à une de ces vitesses.
Quoi ?
Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore, je veux.
Pour vous à la découverte des différentes valeurs dans notre vallée. Chamonix!
Toujours en antenne sur Globule Radio 90.5 FM avec les 4e de Jeanne d'Arc, moi c'est Alban et j'ai choisi de vous parler d'un sujet récurrent dans la vallée de Chamonix, les résidences secondaires. J'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser aux résidences secondaires qui sont particulièrement présentes dans notre vallée. Nous accueillons Aurore Termoz, première adjointe à la commune, conseillère départementale déléguée au logement et à l'habitat, présidente de Haute-Savoie Habitat, ainsi que présidente de l'association Agence départementale d'information sur le logement, qui a accepté de nous renseigner sur le sujet. Pour commencer, qu'est-ce qu'une résidence secondaire ?
Alors ça, c'est une bonne question. Une résidence secondaire, Alban, c'est tout logement qui n'est pas une résidence principale. Ça t'aide, hein, ça ? Le logement principal, c'est le logement là où tu habites plus de 6 mois par an. Par effet de miroir, la résidence secondaire, ce serait un deuxième logement que tu aurais, mais que tu occuperais moins de 8 mois par an. Alors à Chamonix, il y a deux types de résidences secondaires. Tu as des résidences secondaires qui ont un chalet familial, qui viennent souvent, très souvent. Des fois même, certains qui ont une résidence secondaire viennent passer leur retraite à Chamonix parce qu'on a une bonne qualité de vie. Là, on note aussi que dans certaines résidences secondaires, après la crise du Covid, certains ont choisi de venir s'installer sur la commune et puis ils télétravaillent parce que le rapport au travail a changé. Donc ça, c'est des résidences secondaires historiques. Et puis, tu as un deuxième type de résidences secondaires. Ce sont des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas forcément Chamonix, qui ne participent pas forcément de la vie de Chamonix, qui ne se sentent pas super attachés à Chamonix comme on l'est nous. Ces gens-là, ils achètent des appartements pour les louer. Donc on a ces deux types de résidences secondaires. Des résidences secondaires, pour en avoir plusieurs. Alors il y en a certains qui viennent souvent, puis il y en a d'autres qui tournent en location à travers des plateformes.
D'accord. Et quelles sont les lois les concernant ?
Alors, à ce stade, les lois les concernant, c'est surtout des différenciations au niveau des impôts de leur taxe d'habitation. Alors, elle va disparaître pour les résidents principaux, mais elle va être maintenue pour les résidences secondaires. Mais en France, à part cette discrimination-là, on n'a pas beaucoup de différences. Moi, je regarde souvent ce que font nos voisins suisses, parce que c'est intéressant. On est voisins, on fait partie tous de l'espace Mont-Blanc avec les Italiens, et puis on a les mêmes problématiques tout autour du Mont-Blanc. Et ben, dans certains endroits, chez nos voisins suisses, ils mettent un quota de résidences secondaires. C'est-à-dire que dans un village, tu as une centaine de maisons. S'ils ont dit qu'il n'y a pas plus de 30 maisons sur 100 qui sont des résidences secondaires, ils ne peuvent pas développer, de nouveau, ne peuvent pas venir s'installer en résidence secondaire. Il faut attendre que sur le quota, quelqu'un vende sa résidence secondaire pour que quelqu'un d'autre puisse devenir propriétaire d'une résidence secondaire. En France, on n'a pas encore cette chose-là.
D'accord. Et qui est le responsable de la législation des résidences secondaires à Chamonix ?
Alors, la législation, elle est nationale. Et il y a un souci d'équité. C'est pour ça qu'on ne peut pas discriminer ou faire comme nos voisins suisses et dire, nous, à Chamonix, on est une république indépendante et on a décidé qu'on mettait un contingent. Ça, ce n'est pas possible parce que ce serait discriminatoire. Et donc, c'est l'État qui réfléchit sur les questions relatives à la fiscalité, à la réglementation, à ce qu'on peut imposer ou pas.
Et est-ce qu'elles sont perçues comme un problème dans la vallée aujourd'hui ?
Alors, ça dépend de quel type de résidence secondaire. Ceux qui participent de notre vie locale, qu'on connaît, parce qu'ils étaient des amis de tes grands-parents qui venaient souvent en vacances, puis qui se sont installés là et qui participent de notre vie. Souvent, on a de la chance de les avoir, parce qu'ils nous amènent aussi des belles opportunités dans notre vallée, parce qu'ils sont attachés à notre vallée et donc ils investissent des forces vives. La problématique, ce serait plutôt chez nous, une problématique qui concerne le logement principal. Alors, il ne faut pas opposer résidence secondaire et logement principal. Mais tu as vu où on habite. Des couloirs d'avalanche sur les côtés, une rivière qui déborde au milieu, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour construire des maisons pour loger nos habitants permanents. Ça veut dire aussi que les gens qui ont une résidence secondaire, ils ont parfois plus de moyens financiers que nos habitants permanents. Nos habitants permanents, tous ne sont pas très riches parce qu'ils vivent du tourisme. Et donc avec une saisonnalité, il y a des mois où ils gagnent moins que d'autres. Et donc, comme il y a peu de terrain chez nous, c'est le proverbe, tout ce qui est rare est cher. Peu de terrain, et du coup les prix des maisons et des appartements, ils sont quand même très élevés, au risque de faire partir les jeunes comme toi. Si demain tu veux rester à Cham et puis que tu n'as pas gagné au loto, tu auras peut-être un peu de mal à t'acheter une maison quand tu voudras partir de chez ton papa et ta maman.
Et j'ai entendu parler que la vallée taxait les résidences secondaires depuis combien de temps ?
Alors, il y a toujours eu, à une époque, mais ça c'est quand tu étais plus petite, il y avait quelque chose qui s'appelait la taxe d'habitation, qui s'appliquait à tout le monde. Il y avait un dégrèvement, c'est-à-dire que les résidents permanents payaient moins cher que les résidents secondaires. D'accord ? La taxe d'habitation, avec le gouvernement Macron, elle va être supprimée pour les résidences principales. Les résidences principales, c'est comme tes parents ou comme les parents de Léane ou comme moi, on habite ici à l'année. Donc on ne va plus payer notre taxe d'habitation. Mais la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, elle va rester en place. L'État, qui prévoit les lois qui concernent les résidences secondaires, a prévu que dans certaines situations, quand il y avait des situations de logement qui étaient tendues sur des communes ou sur des grosses agglomérations, les communes pouvaient décider, cette fois c'est elles qui décident, hein, c'est le conseil municipal de Chamonix qui va se prononcer, de surtaxer les résidences secondaires, c'est-à-dire de faire payer encore un petit peu plus cher. Cette chose-là, la commune dans laquelle tu vis, elle peut le faire depuis 2023. C'est la loi qui le permet. Mais avant d'appliquer une loi, nous devons attendre un décret d'application. Si tu veux, c'est la notice technique de la loi qui explique aux élus comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils peuvent décider et jusqu'où ils peuvent aller. Donc on attend encore ce décret d'application et on a bon espoir, si tu veux, de pouvoir l'avoir au courant d'été ou à l'automne. Ça veut dire que nous, on pourrait activer ce levier de surtaxation dès 2024. Ça va nous permettre, si tu veux, de récolter de l'argent. On a estimé peut-être 2, 3 millions d'euros, ça fait beaucoup, hein. Et tu sais ce qu'on va en faire de ces 2-3 millions d'euros ?
Pour les résidences principales ?
Eh ben voilà, ça s'appelle un cercle vertueux. L'argent qu'on va récolter auprès des résidences secondaires qui vivent à Chamonix, on va le réinvestir pour que des chamoniards comme toi, comme Léane, demain, si vous voulez rester, vous puissiez avoir accès à des résidences principales, à des maisons qui soient pas trop chères. C'est ça l'idée.
Très belle idée. Je vous laisse en musique le temps de reposer votre cerveau. Ne manquez surtout pas la deuxième partie de l'interview. Tout de suite, après ce bon son des Kids United.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe ce message à ton voisin.
Le vie à 7h du mat, t'es déjà hors retard. Ton patron va encore te brasser.
Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche ce soir. Finis de lasser tes chaussures dans les escaliers.
J'ai besoin d'air, besoin de liberté.
Était au pouvoir,
il n'y avait plus du tout de politique.
C'était le souffle, ni banque ni de magasin. Tout le monde avait un toit et plus personne n'avait faim.
Et je ne délire pas, mais je suis très sérieuse. Oh, 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 oh. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieuse. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque.
Hitler que chacun sa route, chacun son chemin.
D'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu?
Dites-leur que
chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.
Nous venons d'écouter Chacun sa route des Kids United et de Vita. On retrouve Alban avec Aurore Thermos, première adjointe à la commune, qui nous parle d'un sujet très tendancieux dans la vallée, les résidences secondaires. La question suivante qu'Alban lui a posée est: quel est le taux de résidences secondaires dans la vallée?
Alors aujourd'hui, on estime qu'on a un tiers de résidents principaux. Ça, c'est comme toi et moi, on habite là toute l'année, tu viens à l'école ici, moi mes enfants ils vont à l'école ici, mon mari travaille ici. Et deux tiers de résidences secondaires. Tu vois, Moni, il faut te dire qu'on a à peu près 15 000 logements. Tu fais le calcul, 10 000 résidences secondaires, 5 000 résidences principales.
D'accord. Et au niveau des projets, quelles solutions envisagez-vous de mettre en place pour la problématique des résidences secondaires ?
Alors, nous, ce qu'on fait, les résidences secondaires en soi, ce n'est pas un problème. Ce qui guide notre action politique, c'est loger les jeunes, loger aussi nos anciens. Tu sais, certains, des fois, tu as un papy ou une mamie par ici ?
Non,
t'as pas tes grands-parents ? Bah, moi, si tu veux, j'avais ma grand-mère, elle habitait dans une maison, mais elle était très isolée, ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, bah, elle pouvait plus sortir, parce que l'hiver, elle avait peur, et puis elle arrivait pas à entretenir sa maison. Donc, il faut qu'on s'attache à travailler le logement pour tous nos résidents. Des jeunes qui décohabitent de chez papa-maman parce que c'est le premier boulot, puis qu'ils en ont marre, enfin, inviter les copains chez les parents, c'est moins marrant, aux personnes âgées qui sont isolées et qui veulent se rapprocher du centre. Donc, nous, ce qu'on fait, on a une politique communale en matière de logement pour offrir du logement aux résidents principaux. Comment on fait ? On peut acheter des fois des terrains et puis construire des programmes de logements sociaux. Est-ce que tu vois le quartier Jean-Franco, l'école de musique, la crèche, l'EHPAD, juste à côté là ? Tu vois au milieu, il y a 3 bâtiments où il y a 45 logements locatifs sociaux. Et là, on est sur des prix de location qui sont accessibles parce qu'on va être aux alentours de 6 euros en moyenne du mètre carré. Alors que si on va dans un programme privé, on sera plutôt à 18 euros du mètre carré. Donc ton loyer sera 3 fois plus cher, tu te rends compte ? Et tout le monde ne peut pas le supporter. Quand tu élèves des enfants, que tu as des frais, ici on a des frais d'électricité et ça monte beaucoup, eh ben, il faut préserver ces loyers qui sont accessibles à tous. Et puis dans ce programme, tu vois, on a du logement locatif social. Et puis au-dessus de la crèche, on a aussi du logement, on a 7 logements pour des personnes âgées encore indépendantes, mais qui étaient isolées dans leur village et qui ne pouvaient pas continuer à vivre toutes seules. Donc on a un agent communal qui accompagne ces 7 personnes âgées. Alors accompagner, ça veut dire accompagner chez le médecin, veiller à ce que tout va bien, changer les ampoules quand il y a un souci. Ça veut aussi aider à faire les courses sur Internet. Ah, c'est une grosse demande. Quand elles veulent commander des trucs sur Internet, elles demandent à l'agent communal de venir les aider. Donc ça, c'est du logement pour tout le monde. Donc ça, on peut acheter un terrain. On peut aussi utiliser des terrains que la commune a. Est-ce que tu vois où est le Carrefour Market ?
Oui.
Eh bien, juste en face de l'autre côté de la route, tu as un bâtiment qui est un peu moche, qui fait un peu friche.
Oui.
Ça, c'était les anciens ateliers de la commune. C'est là où on réparait nos voitures, c'est là où on travaillait notre plomberie. Eh bien, dans ce bâtiment-là, qui était à nous, on va le raser pour aussi faire du logement pour nos résidents principaux. Alors là, il y aura des types de logements pour des personnes âgées un peu moins indépendantes, avec l'accompagnement peut-être d'une infirmière même pour certaines, ou d'une aide à domicile pour faire l'entretien. Et puis un logement qui sera proposé à des jeunes comme toi. Allez, quand tu auras 22-23 ans, que tu voudras voler de tes propres ailes, bah pendant 3 ans, te permettra de te loger pas trop cher pour qu'après tu puisses prendre ton envol. Et puis parce que la question du logement, tout le monde ne veut pas être locataire. Il y a aussi de nos familles, et c'est très français, dans la durée, elles veulent acheter leur maison. Parce que nous, parents, quand on achète nos maisons, on se dit que c'est quelque chose qu'on vous laissera à vous demain, à nos enfants, et c'est important. Donc dans ce cadre-là, on mobilise le foncier, c'est-à-dire qu'on achète le terrain, on construit des maisons, on les revend à nos habitants, mais pas trop cher. Nous, on se dit que si on revend à 3500 euros du mètre carré, c'est déjà cher, hein, tu te rends compte ? Bah, nos habitants, ils peuvent y accéder. Si c'est une maison construite par un privé, par quelqu'un d'autre que la commune, on est à 10 000 euros du mètre carré. Là, c'est encore pire. Tu te rends compte ? Et en fait, par contre, on fait un deal avec les résidents permanents qui achètent ces maisons-là. On leur dit, on vous accompagne dans votre parcours logement, vous voulez devenir propriétaire pour avoir un patrimoine, pour avoir quelque chose à léguer à vos enfants, puis vous installer durablement sur le territoire. Mais par contre, on fait un effort, nous, mairie, mais par contre, vous, vous jouez pas. Vous n'allez pas revendre ça dans n'importe quelle agence immobilière 10 fois plus cher que ce que vous l'avez acheté. Ou alors, si vous le faites, vous allez être rattrapé par la patrouille. Parce que nous, on viendra vous demander des comptes et on viendra vous demander la plus-value que vous avez faite. Si par hasard, il y a un malheur de la vie, et ça arrive, une séparation, un divorce, une mutation ou des choses comme ça, eh ben, vous avez le droit de revendre, mais vous revendez à des gens comme vous, des résidents principaux, et vous revendez à des gens qui ont à peu près les mêmes revenus que vous. Si vous essayez de revendre à quelqu'un pour faire du Airbnb, on viendra vous chercher puis on vous demandera beaucoup de sous. Voilà comment ça se passe.
D'accord. Mais du coup, c'est le même cas qu'au lotissement des Bossons ?
C'est pas tout à fait le même cas. Là, si tu veux, on avait juste acheté des terrains et fait un remembrement et revendu en fait à des résidents principaux. C'est là, voilà. Donc, on a plein de manières d'agir. D'accord ?
D'accord.
On a aussi un outil. Alors ça, c'est des outils réglementaires. Tu sais, nous, à la mairie, quand on réfléchit sur la question du logement et de l'aménagement, on a un document cadre, un règlement intérieur, si tu veux, qui s'appelle PLU, Plan Local d'Urbanisme. Et il fixe les règles. Il dit, dans un endroit, par exemple, où il y a plein de petites petite maison, vous n'allez pas construire une tour comme celle de l'ENSA, c'est pas possible. Ou dans un endroit où il y a des espaces verts boisés qui sont importants pour des zones de respiration, pour des trames vertes et bleues, ou pour la biodiversité, bah ça va pas être possible de construire beaucoup. Par contre, en ville, quand on est dans un cadre un peu plus urbain, là on peut densifier, c'est-à-dire faire plusieurs étages, mais il faut pas que ça dépasse X mètres, c'est ce document d'urbanisme qui fixe les règles du jeu. Et dans ce document d'urbanisme, on a aussi prévu quelque chose, parce qu'il produit les programmes qu'on construit nous en matière de logement, tu l'as compris. Et puis, il y a quand même d'autres choses qui se construisent par des privés, par des promoteurs qui se construisent alentour. Et à ces gens-là, on dit, si vous voulez avoir le droit de construire, si vous voulez obtenir votre permis de construire, si vous construisez quelque chose qui fait plus de 300 mètres carrés au sol, ça commence à faire une grande maison, hein. Un T4, c'est-à-dire un logement normal avec trois chambres, un salon et une cuisine, en moyenne, c'est un peu plus de 100 mètres carrés. Donc 300 mètres carrés, tu peux te dire que tu as un peu de place. Donc si vous êtes un privé et que vous construisez plus de 300 mètres carrés, attention, il y a 25% de la surface qui devra être réservée à de la résidence principale. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se construira, eh ben, si tu fais un gros chalet, tu devras prévoir un appartement que tu loueras en résidence principale. Ou si tu fais un bâtiment, est-ce que tu vois de l'autre côté de la salle de convivialité, le White Pearl ? T'as un petit programme. Bah, tu vois, là, ils ont construit une trentaine de logements. On leur a dit, ok, on vous laisse construire. Vous pouvez y construire, il n'y a pas de souci. Par contre, vous devrez nous remettre 6 logements locatifs sociaux avec des prix de loyer qui sont accessibles à nos résidents permanents. Comme ça, dans ce programme-là, il y aura et des résidents secondaires et des gens de Chamonix qui ont un peu plus de sous et qui peuvent acheter dans ce programme-là. C'est un programme-là, tu vois, on est aussi aux alentours de 10 000 euros du mètre carré. Et puis, on aura aussi des locataires du logement social. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on aura, ce ne sera pas tout fermé au mois de novembre et au mois de mai parce qu'on aura des résidents principaux. Et donc, pour la vie d'un secteur, c'est plus sympa. Et puis, c'est très intéressant pour nous parce que ça va aussi permettre de travailler ce qu'on appelle la mixité sociale, c'est-à-dire la rencontre de gens qui n'ont pas tous le même profil, qui n'ont pas tous les mêmes centres d'intérêt, les mêmes revenus. Et ça, ça nous enrichit les uns les autres de se confronter avec les différences. Et ça, cette chose-là, ça s'appelle les servitudes de mixité sociale. Ça, c'est quand on demande à un privé de réserver une part de son programme aux résidences principales.
Je remercie Madame Termoz d'être venue et de m'avoir accordé de son temps pour répondre à toutes mes questions. Merci de m'avoir écouté sur Globule Radio. Tout de suite, place à Léane, une amoureuse des animaux, qui va nous parler d'un sujet sensible, la maltraitance.
Vous les aimez, vos animaux de compagnie ? Votre fidèle toutou, votre boule de pois, votre adorable chat ou encore votre petite bouille de rongeur ? Eh oui, nous les Français, nous adorons les animaux de compagnie. Il y a en France plus d'animaux que d'êtres humains. Environ 76 millions d'animaux pour environ 67 millions d'humains. Mais malheureusement, nous sommes également dans le classement de ceux qui les abandonnent le plus. Nous sommes troisième en Europe, juste après l'Espagne et l'Italie. Selon des estimations, ce serait chaque année plus de 100 000 animaux abandonnés en France, indique Anissa Putois, responsable communication chez PETA France.
Waouh, mais c'est énorme! Et qu'est-ce qui explique ces nombreux abandons?
On se demande. Mais qu'est-ce que je vais faire de mon chien pendant les vacances? Ou alors, oh, mais j'avais pas prévu qu'il prenne autant de place dans mon appartement. Ou encore, oh, bah j'ai plus le temps de m'en occuper entre mon travail et mes enfants. Et là, hop, la solution la plus simple, on s'en débarrasse. Oui, il y a 60 000 animaux qui sont abandonnés chaque été. Cela fait environ 11 animaux abandonnés toutes les heures. Les principales raisons sont les départs en vacances. On ne sait pas où le mettre, ni à qui le confier, et on peut pas l'emmener. Mais il y a aussi les changements, comme la séparation, le déménagement. Alors qu'en réalité, votre compagnon, il va juste s'adapter à son nouveau mode de vie. Et demande seulement de ne pas être séparé de vous, car c'est tout ce qui lui importe. Et enfin, une raison à laquelle on pense le moins, c'est la place, l'argent, la responsabilité. Par exemple, on ne trouve personne pour garder son chien, eh bien on ne part pas, car on a choisi de le prendre chez nous, c'est notre responsabilité. Le chien grandit. Et oui, quand il était petit et tout mignon, c'était facile. Mais maintenant, il faut l'éduquer. Et il prend beaucoup plus de place.
Quel est l'animal le plus abandonné ?
Ce sont les chiens, car ce sont ceux qui nous demandent le plus d'investissement personnel. On doit le sortir chaque matin et chaque soir, le nourrir, prendre du temps pour eux. Et oui, un chien demande beaucoup de temps et d'attention. Et c'est pour cela qu'il est le plus abandonné. Les gens n'ont pas le temps. Bien sûr, juste derrière, il y a le chat, et après les nouveaux animaux de compagnie, comme les rongeurs ou les reptiles. Mais on le voit moins, car les gens ne prennent même pas le temps de les déposer dans des refuges ou des associations, ils les relâchent juste dans la nature, alors qu'ils ne peuvent plus survivre tout seuls. S'il est vu, l'abandon sur la voie publique ou dans la nature est considéré comme un acte de cruauté puni d'une amende de 30 000 euros et de 2 ans d'emprisonnement, nous apprend la SPA. Il faut réfléchir avant d'acheter ou d'adopter un animal et se poser la question de comment il sera quand il sera grand. Il faut se renseigner parce que là, il fait peut-être 20 cm et 5 kg, mais plus tard, il fera 50 voire 60 kg. Et il faut se demander, est-ce que je pourrais assumer ça dans mon appartement? Est-ce que j'aurai assez de temps dans le futur? Est-ce que si demain il a un souci de santé, je pourrais l'assumer financièrement? Et pourquoi on ne devrait pas avoir un permis pour pouvoir avoir un animal à la maison? Pour être sûr qu'il est bien et heureux. Mais aussi, est-ce que je peux pas, au lieu de vouloir prendre un chiot, un chaton ou un lapro trop chiot et tout, prendre un animal déjà adulte qui n'a pas de famille et qui a connu l'amour d'un être humain qui l'a abandonné. Alors que le petit chiot ou le petit chaton, il va bien grandir et devenir grand au bout d'un moment. Vous pourriez aussi aider quelques associations ici dans la vallée en faisant des dons, en partageant sur vos réseaux sociaux et en aidant à votre manière, mais en aidant pour éviter que ce problème s'amplifie. Merci d'avoir écouté ma chronique sur la maltraitance et je vous laisse maintenant avec la musique « Il est où le SAV » de Suzanne.
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait.
Dans la vie, il y a des cactus, et sur ce même cactus, depuis, il y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
La planète a la tête dans ce chauffeur. La planète a la tête dans ce chauffeur.
À toi qui
je me dis parfois de façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Tumeur qui ne crée que des cauchemars. Mais je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mes numéros et des vies sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Quelle musique fantastique! Désormais, nous retrouvons Chloé qui nous partage l'engagement de Christine Janin envers son association Chamouniarde, à chacun son Everest.
Aujourd'hui, nous allons interviewer Christine Janin qui a été la première femme française à atteindre l'Everest, mais aussi la première femme au monde à être allée au pôle Nord sans moyens techniques et sans chien de traîneau. Elle a emmené des enfants de l'hôpital pour venir les accueillir sur la banquise. J'ai alors voulu l'interviewer pour qu'elle nous parle de son association À chacun son Everest. La première question que je lui ai posée est comment lui est venue l'idée de créer cette association?
Mais merci Chloé, je suis ravie de pouvoir échanger. L'idée c'est, je crois que la vie c'est un chemin. J'ai pas eu d'idée, j'ai fait des rencontres et la vie c'est des rencontres aussi, c'est oser. J'ai eu la chance, en tant que médecin, je suis médecin, de gravir sur le toit du monde. Et en redescendant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce truc énorme que j'ai fait? Donc, j'ai fait le tour du monde, du plus haut sommet de chacun des continents. Et on m'a demandé d'aller voir des enfants à l'hôpital pour leur parler de la maladie comme une grande ascension. Et à partir de là, il y a un médecin qui m'a dit, mais tu veux pas les emmener à la montagne? Et puis, du coup, j'ai commencé. Voilà, sans savoir du tout ce qui allait se passer. Je crois que j'ai inventé ma médecine. Et c'était de permettre à des enfants qui ont été malades de pouvoir se réapproprier leur corps, de reprendre confiance en eux et de se prouver qu'ils n'étaient pas que des enfants malades et leur donner un élan de vie. Et à partir de là, bah, j'ai continué, ça fait 30 ans.
Du coup, dans cette auberge, en fait, vous faites quoi comme activité ?
Prendre des enfants qui viennent de toute la France, certains n'ont jamais vu la montagne. Donc déjà, ça leur permet de quitter les parents, de se dire que grâce à la maladie, je suis allée à Chamonix. Je vais voir le Mont Blanc, je vais voir la montagne. Et on va utiliser la montagne comme un outil thérapeutique. On va les faire marcher, on les fait grimper, on fait du parc aventure. Et on va faire en finale un sommet, ça peut être les Pauzettes, le Prarion. Mais où derrière le sommet, l'enfant, il va mettre un fanion, il va dire maintenant je suis guéri, je suis comme les autres. Et surtout à travers le sommet, c'est je suis capable. Je peux le faire et maintenant, voilà, je ne suis pas qu'un enfant malade. Donc, on a une maison, on a un parc aventure, on a une salle zen. On peut faire aussi un petit peu de yoga, un petit peu de méditation maintenant, parce que un peu de relaxation, parce que ça aide aussi à se reposer. Et puis, c'est aussi le partage. Dans la vie, de rencontrer d'autres qui ont vécu la même chose, ça change tout. Parce que c'est des enfants qui sont seuls souvent à l'école, qui sont seuls dans leur classe, qui sont seuls à la maison, dans leur village, et qui on rencontre pas d'autres enfants qui sont malades. Et là, tout d'un coup, bah, toi aussi, tu étais. Et on parle de la maladie. Et puis les enfants disent, bah, finalement, les autres, ils vont bien, ils ont l'air normaux. Donc moi aussi, je suis comme les autres enfants.
Et vous accueillez des enfants de tout âge, des femmes de tout âge, parce que j'ai vu aussi que vous accueillez des femmes qui ont eu le cancer du sein.
Et oui, alors on a des enfants de 7 à 12 ans, des pré-ados de 12-14 et des ados de 15-18. Des fois, on les mélange, mais c'est bien de les laisser, les petits restent entre les petits. Alors, chaque fois, j'ai médecin, infirmière, des animateurs, un BAFD, directeur de colo, puis j'ai tout l'encadrement, les guides, les profs de yoga, etc. Et puis, il y a 10 ans, je me suis dit, cette maison, elle n'ouvre pas à l'année. Donc, j'ai la possibilité, du coup, d'avoir une équipe qui va rester avec moi à plein temps, que ce soit le cuisinier, la femme de ménage, la personne qui s'occupe de la maison et tout, toute mon équipe. Et à qui je peux être utile aussi de la même façon. Alors, tous ces enfants, ils ont un cancer. Ça peut être différents cancers. C'est souvent les leucémies, les lymphomes qui sont les cancers qu'ont le plus les enfants. Et puis, je me suis dit, avec qui on peut aider? Moi, je dis toujours les femmes et les enfants d'abord. Et du coup, je me suis dit, ben, y a des femmes qui sont jeunes, qui ont des cancers du sein, parce qu'il y a le cancer, mais il y a le mot sein aussi, qui touche à la féminité, qui touche à la femme. J'ai commencé sans trop savoir ce qui allait se passer. Je me suis rendu compte à quel point elles avaient besoin. Parce qu'une fois de plus, elles sont seules, personne ne les comprend. Il faut savoir que des enfants malades, il y en a 2000 nouveaux cas par an. Des femmes, il y en a 60 000. Donc prenez soin de vous, mesdames, mes jeunes filles. Voilà, ça arrive à des femmes aussi jeunes et il faut faire vraiment très attention. Et on reparlera de se palper, etc. et tout. Mais là, on est un peu hors sujet.
J'ai quand même une question qui me vient en tête. C'est combien de temps restent ces personnes à l'auberge ?
Alors, c'est pas tout à fait une auberge, j'appelle ça la maison. C'était la maison de Joseph Vallot, donc c'est une maison qui a une histoire ici à Chamonix. J'appelle maintenant la maison à chacun son Everest. On a un grand jardin, on a la salle zen, on a une salle d'escalade, on a la... Chacun, les enfants sont par chambre de 4 et les femmes chambre de 2. Et ils vont rester une semaine. Ils arrivent le samedi et repartent le samedi. Voilà, parce que souvent, ils viennent de toute la France, les enfants. Donc, il y a déjà le voyage qui prend du temps à l'aller, au retour. Donc, c'est vrai que pendant une semaine, ils ont le temps vraiment de se poser. Et je voudrais vraiment dire que c'est possible parce que on a beaucoup de gens qui nous aident et ces enfants vont être, et les femmes vont être invitées. C'est-à-dire qu'ils ne payent rien du tout, parce que pour moi, c'est important que tout le monde y ait le droit et que ça fasse partie du parcours de soins. Sinon, ça coûterait vraiment beaucoup trop cher. Donc, voilà. Donc, on les invite et ils sont trop contents.
Combien de personnes accueillez-vous par semaine ?
Alors oui, ces enfants, on accueille à peu près 16 enfants à la fois, les femmes 12. On fait toujours un groupe de 12, les enfants, ça peut être 16, 17, 15, ça dépend un petit peu. Mais avec les enfants, chaque fois, il y a presque 10 personnes pour les encadrer. Il y a la cuisinière, le cuistot, la femme de ménage, le médecin, l'infirmière, les deux animateurs. Tout ça, c'est obligatoire, donc il faut faire vraiment les choses dans les règles. Donc voilà, on a une jolie petite famille. Toutes les semaines, j'ai à peu près 20-25 personnes pour 16 enfants. Voilà. Enfin, tout compris, on est 20-25. Ça fait vite du monde.
Donc votre maison, vous avez dit qu'elle était à Chamonix. Est-ce que vous en avez ailleurs en France ou c'est seulement à Chamonix ?
Alors c'est déjà beaucoup d'en avoir une à Chamonix. Il faut savoir que j'accueille une centaine d'enfants maintenant par an, 250 femmes par an aussi. Depuis le début, on a accueilli plus de 6000 personnes. J'ai accueilli 4766 enfants et plus de 1800 femmes. Donc ça fait beaucoup de monde. Les séjours, je fais deux séjours, deux semaines de femmes et une petite semaine de break parce que sinon, on fatiguerait tous un petit peu. Il faut faire un petit peu attention que les équipes aussi se ressourcent. Et voilà, donc c'est une maison qui est pleine à l'année maintenant et qui permet vraiment d'accueillir toute l'année, soit des enfants, soit...
Nous sommes en train d'écouter Madame Janin qui nous parle de son association. On la retrouve dans quelques instants pour la suite, après une pause musicale de John Lennon, Imagine.
Toujours sur Globule Radio 90.5 FM avec les quatrièmes de Jeanne d'Arc. Il est midi, petite pause info avec les actualités nationales et internationales. On se retrouve tout de suite après.
Bonjour à tous, Elisabeth Borne réfléchit à la mise en place d'un titre de séjour pour les métiers en tension. La première ministre se dit prête à discuter des modalités dans un entretien au Figaro, un point du projet de loi sur l'immigration qui cristallise l'opposition des Républicains. Il s'agirait d'un titre de séjour pour ceux qui exerceraient dans les secteurs qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre. La première ministre assure que la première logique est de permettre à tous ceux qui vivent en France régulièrement d'accéder à un travail. Elisabeth Borne qui doit également présenter le plan ruralité du gouvernement aujourd'hui. L'objectif, améliorer le quotidien des ruraux. Garde à vue prolongée pour le mari de Karine Esquivillon, cette mère de famille de 54 ans portée disparue depuis fin mars en Vendée. L'homme a été interpellé hier. Il pourrait à l'issue de cette dernière être présenté demain à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen ou alors être remis en liberté. L'enquête est désormais ouverte pour meurtre. Dans le reste de l'actualité, une enquête criminelle ouverte dans la Vienne après après la découverte mardi du corps sans vie d'une femme dans un champ. La victime était en partie dénudée. C'est un jogger qui a alerté les forces de l'ordre. Une autopsie doit être réalisée. Selon nos confrères de la Nouvelle République, le décès de la victime remonterait à plusieurs jours au vu de l'état du corps. Ça pourrait être la pire catastrophe humanitaire du siècle en Europe. Au moins 79 migrants sont morts noyés en Grèce à la suite du naufrage d'un bateau qui pourrait avoir fait des centaines de morts. Selon les rescapés, près de 750 personnes étaient à bord. Les autorités grecques craignent que les passeurs aient enfermé les migrants dans les cales du bateau, les empêchant de s'en sortir. 3 jours de deuil ont été décrétés. Et puis, on termine ce flash avec un mot de basket. À suivre ce soir, le match 3 de la finale de Betclic Elite entre Boulogne-Levallois et Monaco. Encore une victoire et Monaco sera champion de France pour la première fois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous.
L'équipe des 4 Chamoignardes est unie pour vous éblouir. Nous sommes partis pour vous à la découverte des différentes valeurs dans notre vallée. Chamonix !
Les prochaines infos seront à 13h. Maintenant, on se retrouve avec Christine Janin. La prochaine question que je lui ai posée était : quelles sont les modalités d'inscription ?
Alors, tout enfant qui en est cancer, il faut savoir que c'est les hôpitaux qui me proposent des enfants à un moment où ils peuvent venir. Il faut qu'ils aient fini la grosse partie des traitements, qu'ils aient pu récupérer, qu'ils ont une bonne, ce qu'on appelle numération formule sanguine, assez de globules rouges, assez de plaquettes, pour pouvoir venir. Des fois, il y en a qui ont encore de la chimio. Chimio, c'est des gros traitements et qui se font par voie orale. Donc, ils sont un petit peu fragiles. C'est pour ça que j'ai toujours médecin, infirmière. Voilà. Après, nous, on appelle les familles. Les hôpitaux m'envoient une liste d'enfants. On appelle les familles. Les familles, il faut convaincre et l'enfant et les parents, parce que c'est souvent aussi les parents qu'il faut convaincre de lâcher l'enfant, parce que depuis la maladie, ils surprotègent un peu l'enfant, donc c'est pour ça que ça fait aussi du bien de se séparer. Et puis après, nous, on va remplir des fiches médicales. On demande à l'hôpital de me remplir 3 pages de fiches médicales pour qu'on puisse avoir tous les renseignements, pour pouvoir vraiment les accompagner dans des bonnes conditions, qu'on c'est des enfants quand même fragiles. Et puis après, on organise toute la logistique, le voyage, de comment ils vont venir de chez eux. Alors ça peut être de Lille, ça peut être de Marseille, ça peut être de Nice, ça peut être de toute la France. On organise tout le voyage, on organise les gens qui vont accompagner tous ces enfants. Donc pour 100 enfants à peu près, on avait 96 personnes qui font que des voyages pour les accompagner jusqu'à Lyon. À Lyon, on met un bus et on les accompagne. Et puis après, voilà, on a les autorisations, bien sûr, des parents. Et il y a un médecin qui revalide tout, un patron d'un gros service d'oncologie, c'est-à-dire des gros services où on travaille sur les cancers, qui revalide toutes les fiches médicales pour être sûr que l'enfant va être en forme et qu'il ne va pas se trouver en difficulté ou ce qu'on appelle en aplasie, c'est-à-dire qu'il va manquer des globules, qu'il va avoir trop de globules blancs, donc il risque des infections. Et pour les femmes, alors pareil, on essaye de faire que ça soit les hôpitaux qui me proposent des femmes à un moment où elles peuvent. Alors j'accompagne surtout des femmes de la région Rhône-Alpes ou quelques services parisiens, parce que je ne peux pas toutes les prendre, mais toutes les semaines, j'ai des exceptions. Des femmes de moins de 55 ans, parce que y en a trop et je préfère accompagner celles qui... Enfin, je préfère. On a privilégié celles qui sont encore jeunes, qui ont des enfants, qui doivent reprendre le travail. Donc, on leur demande aussi une prescription médicale, un résumé de leur parcours médical pour pouvoir les accompagner au mieux. Et chaque semaine, là, j'ai soit un médecin, soit un psychologue, soit un coach, voilà, plus toute l'équipe de la semaine qui va les encadrer. Mais c'est vrai qu'on est très vigilants. On ne prend pas que des gens comme ça, soit des enfants ou des femmes. C'est vraiment dans une démarche thérapeutique, donc il y a toute cette surveillance médicale, même si quand on est là, on ne voit pas qu'ils sont toujours malades.
Aussi, j'ai vu que vous aviez des sponsors et je voulais savoir quel a été votre premier sponsor qui vous a été proposé.
Alors moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai beaucoup de gens qui nous aident, qui nous permettent d'inviter les enfants, les femmes, d'avoir cette belle maison, d'avoir du personnel compétent. J'ai beaucoup de salariés, voilà. Et mon premier... Et moi, j'ai des partenaires, mais fidèles depuis l'origine. Et j'en ai un qui avait commencé... Alors, il s'est arrêté juste cette année, mais quand même... En 92, il m'avait sponsorisé pour mon tour du monde, quand j'ai fait le plus haut sommet de chacun des continents. Et il a continué pendant plus de 30 ans à m'accompagner. C'était le laboratoire Janssen-Cilag, qui est un laboratoire médical. Et en plus, avec cette spécificité, c'est qu'ils ne l'utilisent pas comme de la pub et tout. Ils étaient fiers de le faire. Ils me demandaient juste de venir en parler à l'intérieur de l'entreprise pour montrer aussi aux salariés que derrière un travail, eh ben, il y a aussi des choses utiles qui peuvent être faites. Donc moi, j'étais fière aussi de ça, de montrer que des entreprises peuvent nous aider. Et après, depuis aussi 92, je crois, dans ces années-là, j'ai toute la nourriture qui nous est offerte et c'est le groupe Provencia. Donc c'est Carrefour Market. Toutes les semaines, je fais ma commande et ils nous offrent la nourriture pour les séjours d'enfants et de femmes. Et ça, c'est extraordinaire. On a les billets de train. On doit être une des rares associations, la SNCF, offre les billets de train pour les enfants, pour les femmes. Voilà, et on a un certain nombre de... Mais des partenaires, des sponsors, on les garde aussi parce qu'on leur montre ce qu'on fait. On leur dit merci, on fait des photos. Les enfants, ils mettent des petits mots aussi pour expliquer bah, « Merci, vous m'avez aidé à venir à Chamonix et tout. » Et du coup, les sponsors, ils sont trop contents. Ils mettent les photos dans leur bureau chaque fois. Et c'est très important. Quand on donne, il faut aussi recevoir, mais il faut aussi partager. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'ils restent fidèles. Et puis, c'est une petite grande cause et les gens sont fiers de pouvoir aider des enfants ou des femmes maintenant qui ont des cancers.
Bon, bah voilà, j'ai fini mes questions. Merci d'avoir répondu.
Ben merci Chloé, tu as été formidable. J'étais très fière de pouvoir partager, expliquer tout ça. Et je voudrais juste rajouter, c'est n'oublions jamais que ça peut arriver à tout le monde. Quand on a un enfant malade autour de soi, une personne malade, c'est juste aller tout simplement lui dire comment je peux t'aider et pas le mettre de côté. On est dans une société où dès qu'on est différent, on vous met de côté. Eh ben non, il faut aller le voir en disant voilà, on va t'aider et ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est des vraies choses.
Quelle merveilleuse association de Christine Janin. Tout de suite, pause détente avec la musique de Tracy Chapman, Talking About a Revolution.
Don't you know, talking about a revolution sounds like don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
L'équipe des 4 Chamoniardes est unie pour vous éblouir. Nous sommes partis pour vous à la découverte des différentes valeurs dans notre vallée. Chamonix !
Place maintenant à moi, Alban, de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le cyberharcèlement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, nous les collégiens, nous touche particulièrement. Vous avez certainement déjà entendu parler du harcèlement. Mais actuellement, avec les réseaux sociaux, le cyberharcèlement est apparu. Selon Sal Hacking, aujourd'hui, 7 adolescents sur 10 sont victimes de cyberharcèlement. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ?
Bah oui, c'est quoi le cyberharcèlement ? C'est comme le harcèlement ?
Oui, c'est une sorte de harcèlement. La seule différence, c'est que ça se passe en ligne, via les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp. Comme vous le savez, c'est souvent des insultes, des messages humiliants, mais aussi des usurpations d'identité numérique. C'est-à-dire qu'on se fait passer pour quelqu'un et qu'on en profite pour lui faire dire n'importe quoi. C'est également la diffusion de photos ou de vidéos gênantes, qu'elles soient authentiques ou photoshopées. Enfin, ça peut être la création d'un groupe ou d'une page sur un réseau social, avec pour objectif de se moquer d'une personne.
Mais comment savoir si un enfant est victime de cyberharcèlement ?
Il va changer de comportement, il va essayer d'éviter d'aller à l'école, il va supprimer ses comptes de réseaux sociaux, il va changer d'apparence, il va perdre confiance en lui et aura une angoisse à l'idée d'affronter le regard des autres.
Et qui appeler en cas de cyberharcèlement ?
Si tu n'es pas à l'aise pour en parler à quelqu'un de ton école, comme la CPE ou bien tes amis proches ou alors ta famille, sache que tu peux appeler un numéro anonyme en ligne 24 heures sur 24 qui s'appelle NetEcoute au 0800 200 000. Là-bas, ils sauront te donner des conseils pour régler tout ça. N'oublie pas NetEcoute au 0800 200 000. En tout cas, sachez qu'il est très important d'en parler si vous en êtes victime. Ne restez surtout pas seul.
Merci Alban pour toutes ces informations. Maintenant, on enchaîne avec la musique Alléla de Oshi qui s'adresse à tous ceux qui éprouvent des difficultés dans leur vie et les invite à garder espoir.
On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien ? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand il y a le soleil ? Je me recouche dès que je me réveille. Mais y'a cette voix dans mes oreilles. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver. J'ai mal au bide, à force de penser. Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pourtant je danse toute la nuit. Je n'ai plus confiance en la vie. Pourtant il y a cette voix qui me crie. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas? Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies.
Superbe message et musique d'Oshi, je passe désormais la parole à Tabata, qui nous en apprend plus sur un métier très fréquent dans la vallée, secouriste en montagne.
Maintenant, nous accueillons Fred Ové du PGHM de Chamonix, qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Fred, je vais vous poser quelques questions sur votre métier. Depuis combien de temps faites-vous ce métier et quelle fonction avez-vous au PGHM de Chamonix ?
Alors, bah, bonjour Tabata. Depuis combien de temps ? Je suis au PGHM depuis 2013 à Chamonix et en PGHM depuis 2008, puisqu'avant j'ai travaillé 5 ans au PGHM à Bourg-Saint-Maurice.
Ok. Avez-vous toujours eu envie de faire ce métier ?
Alors toujours peut-être pas, parce qu'on a des idées des fois farfelues quand on est vraiment enfant. Mais depuis que j'ai l'âge de me poser sérieusement la question du métier que je veux faire, c'est un peu un rêve et un projet que j'avais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais travailler en montagne. Je voulais être guide de haute montagne aussi, donc j'ai commencé par ça. Et puis le secours, je l'avais quand même toujours en objectif. Et du coup, bah, dès que j'estimais que c'était le bon moment, j'ai passé le concours pour rentrer en école de sous-officier de gendarmerie et puis après en unité de secours.
Ok, merci. Est-ce que l'esprit d'équipe est important dans votre métier ?
Oui, c'est même essentiel parce que bah, déjà, on travaille en équipe au sein du PGHM, sur les secours, mais aussi en entraînement ou sur d'autres missions. Et puis, on travaille aussi avec beaucoup de partenaires, les médecins, évidemment les équipages des hélicoptères. Sécurité civile, gendarmerie, les médecins du SMUR, les pisteurs secouristes quand on intervient en renfort sur domaine skiable. Donc il y a l'équipe, vraiment l'équipe centrale du PGHM, les camarades avec qui on est toute la journée en entraînement, en secours. Et puis après, il y a tous les partenaires avec qui on travaille. Et oui, il faut avoir ce sens du travail en équipe pour faire ce métier. Ouais.
Ok. Y a-t-il beaucoup de femmes qui s'engagent dans ce travail ?
Alors, beaucoup non, le nombre il est assez faible, mais en ce moment, on a une secouriste au PGHM à Chamonix, qui est monitrice de ski, guide de haute montagne, qui est très qualifiée, et on a un grand plaisir à travailler avec elle. Et puis, on a travaillé aussi avec une autre secouriste qui, entre-temps, est partie au PGHM de La Réunion, qui est maintenant instructrice au centre de ski et d'alpinisme, donc c'est pas du tout... inaccessible, en fait, c'est simplement que y a un peu moins de candidates, y a un petit peu moins de candidates aussi dans le milieu de l'alpinisme, même si c'est en train d'évoluer. Mais en tout cas, la porte est grande ouverte et nous, on trouve que c'est très bien de travailler aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent avec vous en même temps que vous faites un sauvetage ?
Alors, avec nous, oui. Comme j'ai dit... Le PGHM, c'est donc l'unité de secours, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Mais les médecins ne dépendent pas du PGHM. Les médecins qui viennent avec nous, c'est des médecins du SMUR qui appartiennent aux hôpitaux du Mont-Blanc, donc hôpital de Sallanches et de Chamonix. Donc déjà, ça, c'est une première composante du secours. Après, il y a les équipages hélico qui ne sont pas non plus du PGHM. Même quand c'est l'hélico de la gendarmerie, ce n'est pas l'hélico du PGHM. C'est une unité bien à part, c'est les forces aériennes de la gendarmerie. Et ils travaillent évidemment beaucoup au profit du secours en montagne à Chamonix parce que c'est une activité importante. Mais ils ont aussi d'autres missions qui ne sont pas forcément en lien avec le secours. Et puis on travaille aussi avec Dragon, l'hélicoptère de la sécurité civile que vous voyez une semaine sur deux à Chamonix, qui vient d'Annecy et avec qui on travaille. Donc sur le secours, c'est nos partenaires vraiment les plus habituels. Après, sur certains secours, quand on est en domaine skiable, on va intervenir avec les pisteurs secouristes qui sont primo intervenants sur tout ce qui est domaine skiable et ils peuvent nous appeler en renfort. Donc là, on intervient avec eux. On peut intervenir avec des sapeurs-pompiers, on peut intervenir avec même des secours bénévoles ou on peut être appelé à travailler avec plusieurs intervenants. Et après, sur le massif du Mont-Blanc, l'organisation, elle est faite avec uniquement le PGHM qui fait le secours. Donc ça, c'est bien pour le massif du Mont-Blanc. Sur le reste de la Haute-Savoie, le PGHM de Chamonix et d'Annecy, on intervient avec un sapeur-pompier du GMSP 74 depuis Annecy ou depuis Chamonix une semaine sur deux. Donc on travaille finalement avec beaucoup de services et c'est ce qui rend aussi le métier riche et intéressant.
Ok. Est-ce qu'à l'époque, les sauvetages étaient effectués avec le PGHM ou il n'y avait pas encore le PGHM ?
Alors le PGHM de Chamonix, il a un peu plus de 60 ans puisqu'il a été créé en 1958. On a fêté les 60 ans en 2018 du coup. Alors avant le PGHM, le secours en fait était bénévole et organisé autour de la solidarité. Alors à Chamonix, c'était particulier parce qu'il y avait déjà beaucoup de pratiques de la montagne et quand même quelques secours aussi à faire, moins que maintenant forcément puisque la fréquentation a beaucoup augmenté avec la période on va dire moderne. Mais du coup il y avait tous les intervenants un peu de la vallée qui se partageaient un peu la mission de secours. Donc la compagnie des guides de Chamonix, l'école militaire de haute montagne, des bénévoles, la société chamonnière de secours en montagne. Donc ils se partageaient la mission du secours. Et puis, il y a eu un drame en 1956, à l'hiver 56, à l'époque à peu près de Noël, où il y a deux jeunes qui s'appelaient François-Henri et Jean-Vincent Don, qui ont voulu faire l'ascension du Mont-Blanc en hiver par une voie difficile côté italien, qui se sont retrouvés bloqués dans le mauvais temps, qui n'ont pas réussi à sortir. Et puis, bah, l'organisation du secours comme ça, basée sur la, un peu sur le bénévolat et puis le, l'organisation, le partage des responsabilités, bah, a pas permis de faire ce secours qui aurait de toute façon été compliqué. Hein. C'était un secours qui était difficile en altitude, en hiver, avec des hélicos de l'époque, qui c'était le tout début des hélicos en montagne. Donc ça aurait de toute façon été un secours difficile, mais bon, là, c'est un secours qui n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à redescendre ces deux jeunes en vie. Et du coup, à l'issue de ça, c'est un drame qui a un peu ému toute la vallée, parce qu'en plus, ça se voyait depuis la vallée. Donc ça a été beaucoup suivi par la presse et les gens qui, de la vallée. Et du coup, à l'issue de ça, l'État a décidé de confier le secours en montagne à des services de l'État, et en particulier la gendarmerie. La police et la gendarmerie, dans un premier temps. Et du coup, bah, le PGHM a été créé donc en 1958 à Chamonix. Et depuis, on est les acteurs du secours sur le massif du Mont-Blanc.
Bien, merci Fred. J'espère que nous nous reverrons bientôt pour une autre interview peut-être. Au revoir.
Bah, au revoir Tabata, et c'était un plaisir d'échanger avec toi.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions également les personnes qui ont accepté de répondre à nos différentes interviews. Aurore Thermoz, Christelle, Anne-Quin-Moncourt, Christine Janin et Fred Auvet, également les personnes qui ont accepté de nous offrir à tous, les élèves de 4e du Collège Jeanne d'Arc, un accès gratuit pendant 4 mois au logiciel Heidenburg, un logiciel danois de montage, son qui nous a vraiment aidé, facilité et sa qualité. On remercie aussi l'équipe de Globule qui nous a permis de réaliser cette émission. Nous espérons que cela vous aura plu, à vous, chers auditeurs. Et si vous n'avez pas pu écouter notre émission depuis le début, je vous invite à aller sur le site globule.chamouni.radio où vous pourrez la réécouter en entier. Et maintenant, nous laissons la place au groupe de Chlory et Sarah. Encore merci et nous vous souhaitons une
très bonne journée.
On vous laisse en musique avec Flowers de Miley Cyrus.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold.